Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 5 juillet 1991.
Alors, c'est la dernière conférence, du moins le dernier cours de cette session. Alors, comme la philosophie, on la commence à n'importe quel âge, parce que, n'est-ce pas, il y a des auditeurs de tous les âges ici. On commence très tôt la philosophie. On est particulièrement attentif, et puis jusqu'à un âge... avancer, quoi. Il y a toujours le doyen. Il y a toujours un doyen. Moi aussi, je suis un doyen, alors ça va. On se comprend. Et ça ne se termine jamais. Je crois qu'on continuera de faire de la philosophie au ciel. Ça va être très étonné. On fera plus de mathématiques. On fera plus de droit, mais on fera encore de la philosophie. Alors on commence dès maintenant. Parce que la philosophie, c'est notre intelligence transformée, évidemment, par la lumière de gloire, mais elle n'est pas, elle restera, cette sagesse philosophique. Et vous verrez, il y aura des sessions philosophiques. On demandera de temps en temps à Saint Jean de nous en faire. Et au vieil Aristote de le réveiller un peu. Je crois que Aristote, quand même, le Seigneur l'aime bien. Platon, il a fait longtemps de purgatoire. Mais... vous êtes miséricordieux. Religieux ne peut-il pas expérimenter un certain désespoir face à l'orgueil qu'il découvre en lui? Le philosophe peut-il répondre à ce problème? C'est très vrai. Je parlais du mal. Quand on découvre en nous cette propension à l'orgueil, c'est pas très drôle. On découvre en nous cette bêtise de la vanité. Et quand on découvre en nous cette inclination vers le sensible et le sensuel, c'est pas drôle. Surtout quand on atteint un certain niveau de sagesse. Ça ne nous conduit pas au désespoir, parce que même au point de vue purement naturel, on sait qu'il y a la providence, que Dieu est Père, et que même si constamment il y a des fragilités, des faiblesses, des chutes, des fautes, on ne doute pas de la miséricorde de Dieu. On ne doute pas de la miséricorde d'un père. On ne peut pas douter de ça. Dieu ne rejettera jamais. Donc même au point de vue purement éthique humaine, éthique religieuse, on ne tombe pas dans le désespoir. Oui, l'éthique religieuse ne conduit pas au suicide. Au contraire. C'est quand on quitte l'éthique, quand on quitte le sens de la dignité de la personne humaine, alors qu'on est sur une pente de désespoir. Et le le désespoir est souvent maladif. Il n'est pas philosophique, il est maladif. Il n'est pas psychologique, il est maladif. Le psychologue sait très bien ce que représente cette espèce d'inclination morbide au désespoir et au suicide. C'est morbide. C'est pour ça que c'est très pardonnable. Je crois qu'il y a très peu de suicides parfaitement conscients. Même quand ils paraissent parfaitement conscients. On m'avait raconté, je ne dis pas c'est qui, mais il n'y a pas longtemps, celui qui avait annoncé ça, et qui avait laissé ça sur sa table, va me trouver à la cave. Vous voyez, c'est une lucidité psychologique qui est très curieuse, qui ne laisse pas de liberté. Il y a ça au sein de certains déclics psychologiques qui peuvent être lucides, mais qui apparaissent comme nécessaires. S'il n'y a personne auprès pour enlever ce lien de nécessité. Très très curieux ça. Ce sont des liens psychologiques. Infra-humains. Mais qui s'impose. Et la personne qui les vit, qui le dit après, les vit comme une nécessité. Elle ne peut pas faire autrement. Avec presque quelquefois une sorte de certaine lucidité curieuse. Que c'est idiot, mais c'est comme ça. On est comme voué à ça. Vous voyez, ça fait découvrir ce que les anciens appelaient le destin. La moira grecque. On est prédestiné à ça. Chose qui s'impose. Notre vie chrétienne nous permet de dépasser ça. Mais il y a quelque chose qui est très rude. Alors, je crois que c'est ça que le philosophe doit comprendre. Que plus on s'aperçoit de ces pentes d'orgueil, de vanité, de jouissance charnelle, plus on doit adorer et vivre de la providence le plus qu'on peut. C'est le seul remède, il n'y a pas d'eux. On peut évidemment avoir suffisamment de lucidité pour comprendre qu'il ne faut pas se laisser aller à la pente. On peut presque toujours dominer le premier moment, mais pas le troisième. Il y a un enclenchement très très curieux. Je vais maintenant, puisque c'est la fin, réaliser ce que je vous ai dit. C'est-à-dire lire dans Saint Jean, c'est normal. Ce passage du chapitre 4, qui est très beau. Donc je le prends, j'allais dire, en philosophe, tradition judéo-chrétienne, et tout à l'heure en théologien, en croyant. Donc, le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, et pourtant ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Jésus ne peut pas supporter la jalousie. Et dès qu'il voit la jalousie, il s'en va. Très significatif ça. Une jalousie consciente, réfléchie. Pas une tentation de jalousie, c'est évident. Jésus n'est pas dans la tentation de jalousie. Et non, nous non plus. mais une jalousie consciente, organisée, qui fait que le curé du coin est jaloux de l'autre curé. Le curé du coin a un clocher de tant de mètres, l'autre va en construire un peu plus haut. C'est la querelle des clochers. Ça arrive. Il n'y a pas que les clochers, vous savez bien. Mais c'est comme ça. Tel séminaire a tant de recrues, tel autre moins. Oh, alors on va tout faire pour ça. Quitte à mettre des mannequins pour avoir le nombre et la quantité, puisque on ne regarde pas la qualité. Ça joue énormément à la jalousie, vous savez, mais terriblement. Alors on voit très bien, Jésus quitte la Judée. Il lui fallait traverser la Samarie. Il vint donc dans une ville de Samarie, appelée Sicar, près du domaine que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob, le puits de Jacob. Jésus, donc fatigué du voyage, était assis à même la source. C'était environ la sixième heure. Vint une femme de Samarie pour puiser l'eau. Admirer ce style de Saint Jean qui dit tout avec une sobriété. Tout y est, on voit le tableau. Vint une femme de Samarie pour puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alors, vous respectez dans Saint Jean les silences. Bien évident que Jésus, fatigué, reste là, en silence, un moment. Puis arrive la femme. Et la femme, elle, n'a pas besoin de silence. Vous comprenez pourquoi? Elle chante le petit air de musique à la mode. On la voit très bien. Il n'y a pas de silence. Cette femme est sans silence. Jésus, lui, est plein de silence. Et il y a quelque chose de très extraordinaire. Plein de silence et attentif, très attentif à celle qui doit venir. Il le sait. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient partis à la ville pour achever les provisions, pour acheter les provisions. On voit très bien ça. C'est assez étonnant. Hein. C'est la première fois dans l'évangile de Jean où on voit que Jésus se sépare de ses disciples. Jusque-là, vie commune. Première fois où Jésus est seul. Pour réaliser un acte apostolique seul. C'est quand même impressionnant, ça. On sait très bien que quand on est un gros pécheur, comme la Samaritaine, on aime mieux rencontrer Jésus seul. Pourquoi ses apôtres? C'est assommant. On n'a pas envie du tout. Jésus seul, ça va très bien. On peut tout lui dire. Puis, ça permet à Jésus d'avoir l'initiative. C'est la première fois que Jésus a cette initiative. La première fois, parce que quand il a appelé les apôtres le suivaient, c'est eux qui ont pris l'initiative du geste. Ici, Jésus attend. Donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La femme samaritaine lui dit donc, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine. une femme samaritaine. Oui, déjà, un juif ne parle pas à un homme samaritain. Et vu le contexte des coutumes du pays, encore beaucoup moins. Un jeune juif de 30 ans. Jésus a 30 ans. Le plus beau des enfants des hommes. Tellement beau qu'on ne remarque pas. Une beauté très intérieure, mais aussi une beauté visible. À 30 ans. Et la femme le remarque tout de suite, hein. Elle est habituée à ça. Oh, très très bien. Immédiatement. Ça l'étonne, mais et alors, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les samaritains. On voit très bien ça. Vous voyez, c'est pour ça que cet évangile, c'est l'évangile de l'œcuménisme, je vous le dis tout de suite. Et toute la théologie de l'œcuménisme est là. Très étonnant. C'est curieux qu'on ne le dise pas plus. Parce que ça me semble d'une manière étonnante. Quand vous regardez la place de ce chapitre 4 dans l'évangile de Jean, où tout est parfaitement ponctué, selon un ordre de sagesse, vous avez ceci, c'est pour que vous compreniez mieux ce passage qui est si important. Vous avez Jésus, Cana, les noces, en Galilée. Vous avez Jésus, le temple, qui chasse les vendeurs du temple, et Nicodème. J'intitule cela le cycle de l'agneau. C'est la miséricorde du Christ à l'égard du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, l'amour est resté en Galilée. Et Jésus est présent aux noces pour transformer l'amour humain en amour divin. Le temple, Jérusalem. Jérusalem, là où on devrait adorer, là où on devrait prier Dieu, il y a une chute terrible, une baisse terrible. Mais on voit ça aujourd'hui, hein. Dans les grandes villes, la baisse, la pratique. Dans des petits villages, il y a encore. Quelquefois, c'est l'inverse, hein. Le temple. Jésus prend le fouet pour purifier le temple. L'exigence du temple, c'est l'adoration. Et on fait la confusion entre le commerce et l'adoration. Et Nicodème, c'est la doctrine. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire de voir les trois miséricordes de l'agneau pour le peuple d'Israël. Par rapport à l'amour, par rapport à l'adoration, par rapport à la doctrine, l'intelligence. Les trois points sensibles qui touchent le cœur de Jésus et que le peuple d'Israël ne réalise plus. Vous avez ensuite un petit intermède, la jalousie. La jalousie des disciples de Jean-Baptiste par rapport à Jésus, par rapport aux disciples de Jésus. Critique Jésus. Parce qu'il critique Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a présenté Jésus. Il n'aurait pas dû le faire. Et Jésus gagne de la vitesse sur Jean-Baptiste. Vous savez, les jalousies religieuses, c'est toujours la même chose. Alors on a second moment du cycle de l'agneau, samaritaine. Que nous allons voir. Cana, de nouveau. Et puis la piscine se trouvent les trois. Je crois qu'ici, c'est le cycle de l'époux. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste nous montre que la seule manière de dépasser la jalousie, c'est de regarder Jésus comme époux. Il nous aime d'un amour jaloux. Et seule la jalousie de Dieu est victorieuse de toute jalousie humaine. Alors on a ici Jean-Baptiste qui annonce l'agneau. Vous voyez comme l'évangile de Jean est dans la lumière de Jean-Baptiste. L'agneau. L'époux. Oui, c'est l'époux. L'époux, c'est l'amour. L'amour, c'est la gratuité. Et ces trois moments, c'est le dépassement de Jésus par rapport à son peuple. La Samaritaine. La sœur séparée, méprisée. Un juif ne parle pas à un Samaritain. À Cana, c'est la rencontre du petit roi, du petit Basileus de Capharnaüm, qui vient supplier Jésus de sauver son fils. C'est un païen, un romain. Il y a des chances, soldat romain. Et à la piscine de Bethsaida, c'est la piscine de Bethsaida, tout près du temple. Ceux qui ont été à Jérusalem la voient bien. C'est tout près de la basilique Sainte-Anne. C'est à deux pas du temple. À la piscine de Bethsaida, ce sont tous les pauvres types, les marginaux, comme on dirait aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas le droit d'entrer dans le temple. Parce que c'est une impureté d'être un pauvre type. Donc il n'a pas le droit d'entrer dans le temple. Religion très 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 sélecte. Et alors on a là une communauté de pauvres types. Ceux qui sont indésirés. Vous savez, dans les communautés de base, je demandais au début qu'on en parlait à un jeune dominicain que je connaissais bien, disait, c'est merveilleux les communautés de base. On se choisit. Dans un couvent, on ne se choisit pas, je dis c'est très vrai. Je dis, mais ceux qui ne sont pas choisis, qu'est-ce qu'ils font? C'est la communauté des indésirés. Ceux qui n'ont pas été choisis. Parce que c'est toujours comme ça. Les restants. La piscine de Bethsaida. Et Jésus ne va pas au temple, il va tout de suite à la piscine de Bethsaida. Vous voyez, c'est l'éclatement. C'est l'éclatement de l'apostolat de Jésus. Ça, c'est très très beau. Et vous voyez deux grands moments où il parlait de l'adoration. Vous allez voir, avec les Samaritaines et au temple. Au temple, pas explicitement, mais quand même. Ça doit être une maison de prière. Et la prière est premièrement une adoration. Alors, je continue pour que vous situez bien. Parce que vous voyez, c'est très beau, parce que vous comprenez les sept premiers moments de la vie apostolique de Jésus. Hein? 4, 5, 6, et le septième, en continuité avec la piscine de Bethsaida. Mais c'est Jésus qui donne un enseignement, qu'il est le Fils. Alors on a l'agneau, l'époux, et Jésus montre qu'il est le Fils. C'est très important de découvrir ce rythme dans la vie apostolique de Jésus, du point de départ. Parce que ça va se répéter. Et vous voyez Jésus sous la mouvance des sept dons du Saint-Esprit. Alors, je continue. Jésus répondit, et lui dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à qu'il en aurait prié. Il t'aurait donné à boire. La première chose que Jésus enseigne à la Samaritaine, c'est de lui apprendre à demander. La Samaritaine est tellement intimidée devant un juif qu'elle est complètement inhibée. Elle n'aurait rien dit. Rien dit du tout. C'est Jésus qui l'a fait sortir de là. En lui disant, mais c'est toi qui aurais dû demander. Apprends à demander. C'est toi qui t'en aurais, qui l'en aurait prié. Il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Comment donc l'aurais-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et y a bu, lui, et ses fils, et ses bêtes? Ça, on retrouve ça tout le temps, jusqu'au concile. Jusqu'au concile, on disait que c'était au bar que le communisme était fait. Alors, voyez, là, on voit bien, Jacob, ses fils, ses bêtes, et ses brebis. Tout le monde y va, tous les vivants. Ils sont tous à présent. C'est délicieux, ce passage. Hein. C'est quelque chose de très beau. On découvre le cœur de la Samaritaine. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. La seule supériorité de la Samaritaine sur Jésus, c'est qu'elle a une cruche. Vous voyez, la seule supériorité de l'humanité sur Dieu, c'est que l'humanité a une technique. À cause de la technique, pas besoin de Dieu. Elle n'a besoin de personne, elle a une cruche. C'est vrai, c'est la seule supériorité. Dieu n'a pas besoin de technique. Et nous, nous nous présentons à Dieu sans regarder. Merveille. On a des mirages extraordinaires. On a ça. Tu ne l'as pas, toi. On a un TGV. Transplanter le TGV, le super TGV dans le ciel, vous voyez ça? Seigneur, tu n'as rien. C'est la première chose qu'elle dit quand Jésus dit qu'il a... Tu leur as demandé par l'eau vive. Mais à quoi tu penses? Tu n'as rien pour puiser. On pourrait dire qu'un endroit. Oui, université. Je pense qu'à ça. La technique lui permet de puiser l'eau. On ne peut pas puiser autrement. C'est très beau, ça. C'est très beau parce que c'est le dialogue constant de l'humanité avec Dieu. Jésus est caché, c'est évident, mais Dieu est toujours caché. Et c'est cette humanité. Dieu a beau présenter tous ses dons, et l'humanité continue, sans faire aucune attention. Très fier de sa technique. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Comment donc l'aurais-tu cette eau vive? Un peu d'ironie par rapport à l'eau vive. C'est un symbole. Tu vis de ça. Qu'est-ce que c'est que cette eau vive? Comment donc l'aurais-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? À la supériorité des Samaritains sur les Juifs. Les Juifs ont le temple, les Samaritains ont le puits de Jacob. Et comme on est sur une discussion de l'eau, ça va très très bien. On peut tout de suite montrer supériorité sur ce jeune Juif. Évidemment, il est plus jeune qu'elle. Il a une supériorité. Il a encore une certaine beauté, une force de séduction. Elle, je crois qu'elle n'en a plus beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de séduction, cette pauvre Samaritaine. On n'en a pas la photo, mais c'est intéressant. Pauvre femme. Pas grand-chose. Alors elle se rattrape, la technique. Et puis, le patrimoine, Jacob. On remonte là-dessus. Et là, elle dépasse Jésus. Tu vois, elle croit le dépasser. Elle est persuadée qu'elle le dépasse. monté ce puits et a bu, lui, ses fils et ses bêtes. Jésus répondit, lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Bon, ça, c'est son expérience quotidienne. Et Jésus prend cette expérience quotidienne pour la remettre dans la vérité. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle. Vous voyez comment Jésus éveille son désir. L'expérience quotidienne, fatigante, épuisante, à la méridienne, en plein midi, alors que les hommes font la surpose, lui dit, Seigneur, donne à moi cette eau que je n'ai plus soif et que je ne me rende plus ici pour puiser. Jésus est arrivé, oui, à la pédagogie du Christ, hein. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on est devant une quantité de gens complètement indifférents. La Samaritaine. Plus aucun désir. Arrivé à l'âge de la Samaritaine, plus aucun désir. Jésus éveille le désir, rappelle le désir. Parce que s'il n'y a pas de désir, on ne peut rien faire. Les jeunes ont des désirs. Mais quand il y a eu des déceptions successives, il n'y a plus de désir. On est replié. Alors Jésus éveille. Cette eau. Alors c'est pris d'une façon très matérielle, hein, que je n'ai plus soif, que je ne me rende plus ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Au moment où Jésus a réveillé un désir en elle, il va la remettre une fois de plus devant la vérité, la réalité. Va, appelle ton mari. Et viens ici. La femme répondit, et elle dit, je n'ai pas de mari. Là, elle est atteinte au vif de son cœur blessé. Mais c'est merveilleux comme pédagogie divine. Hein. C'est extraordinaire, les étapes successives. Depuis l'étonnement, éveiller le désir ensuite. Après la remettre devant la vérité. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5. Et maintenant, celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Elle dit quelque chose de vrai, Jésus. Et comme c'est curieux, Jésus veut la remettre dans la vérité. Une expérience et la remettre dans la vérité. Il y a un point sur lequel elle est vraie. Cette femme qui pense sûrement à des tas de choses totalement chaotiques. La femme lui dit, Seigneur, je vois bien que tu es un prophète. Il y a un moment de silence. Elle découvre le prophète. Parce que Jésus a vu dans la profondeur de son cœur. Elle a eu 5 maris. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que c'est à Jérusalem qui est le lieu où il faut adorer. Vous voyez, Jésus a fait une psychanalyse divine, étonnante, en un rien. Cette femme vivait dans un rêve. Elle n'était plus du tout dans le réel. remet dans le réel, l'expérience quotidienne. Il la remet dans la vérité, obligé d'avouer. Et puis après, en présence de Jésus, tout de suite, elle dévoile ce qu'était la grande inquiétude de sa jeunesse à l'égard de l'adoration. Cette petite Samaritaine, elle a entendu les discussions des grands, des enfants dont on dirait qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent très bien. Ils entendent tout. Elle a entendu les discussions entre ses grands-pères, ses pères, et puis les autres, les juifs. Les uns disent qu'il faut adorer à Jérusalem, c'est le seul lieu. Les autres sur les hauts lieux. Cette querelle ancestrale, religieuse. Vous voyez, querelle liturgique. C'est intéressant. Querelle liturgique. Débattue en face d'un enfant qui a la foi et qui cherche à adorer. Et cette querelle l'empêche d'adorer, mais le doute. Il faut faire toujours attention. Laissez aux grands, aux intellectuels, les combats liturgiques. On a une chose à faire. Quand on est un enfant de Dieu, on vit, on aime. C'est extraordinaire de voir ça ici. C'est très très fort. Jésus la remet tout de suite sur ce qui a été dans sa jeunesse. La faille. Il y a eu un soupçon. Il y a eu une hésitation. Et ces terribles soupçons qui touchent l'adoration. Puisque l'adoration, c'est le roc. Je vous l'ai dit. C'est ce qui enlève toutes les angoisses. Or, cette querelle, au niveau de la manière d'adorer, c'est pas l'adoration, c'est la manière d'adorer, c'est le lieu de l'adoration. Un enfant ne peut pas faire la distinction. Puisqu'on ne sait pas où il faut adorer, on n'adore plus. Et la querelle, au niveau de la manière d'adorer, fait le démon aidant qu'on n'adore plus. Je suis persuadé que cette femme n'adore plus. Elle n'a plus adoré à cause de ça. Si on n'adore plus, on n'a plus rien qui nous purifie, qui nous donne une ligne droite, qui nous permet de garder un cœur pur. C'est l'adoration qui permet de garder un cœur pur. Alors à partir de là, tous les glissements, tous les désarrois. Quels sont ceux qui sont coupables? Ce sont ceux qui n'ont pas respecté la conscience d'un enfant. Jésus est très sévère quand on scandalise un enfant. Et scandaliser un enfant sur le mystère de l'adoration, c'est ce qu'il y a de pire. Puisque l'adoration, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Et c'est ce qu'il y a de plus grand. Scandaliser un petit sur le mystère de l'adoration, c'est l'empêcher d'adorer. C'est le refoulement par rapport à l'adoration. Alors c'est affolant, ça. C'est terrible. Et vous voyez, c'est très significatif. Hein. Jésus la remet devant son état. Cinq maris. Demain, elle sait ce que c'est. On ne peut pas l'oublier si vite. Et immédiatement, elle voit la source. Elle se trouve devant un prophète. Et devant ce prophète, immédiatement, elle montre. Seigneur, je vois que j'ai un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, vous, que c'est à Jérusalem, qui est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme. Jésus la regarde ici et l'appelle femme. femme. Crois-moi, femme. Elle vient l'heure où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Le dépassement par rapport à toutes les querelles qui confondaient la finalité et le comportement et la manière de réaliser la finalité, les moyens. Et c'est ça qui pesait sur le cœur et sur l'âme de cette petite Samaritaine. Et Jésus donne la solution merveilleuse. Vous voyez, dans l'œcuménisme, ce n'est pas en revenant sur le lieu de la séparation, sur le moment de la séparation. Non, parce qu'à ce moment-là, on montrera qu'il y en a un qui a tort et que l'autre avait raison. C'est pas très charitable. Et c'est pas un manque de charité qui conduit à l'unité. C'est en dépassant l'opposition et en allant plus loin. C'est-à-dire en rappelant la finalité, le sens de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas une question de lieu. C'est une question bien plus importante. C'est la finalité de notre âme. Rejoindre celui qui est notre Créateur et l'aimer. Elle vient l'heure, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, celui-là, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Première révélation de Jésus comme Messie à la Samaritaine. Voyez, le cycle de l'époux, il révèle le secret à cette femme. Tout de suite, bien qu'elles sont très loin, puisque c'est une pécheresse publique, tout le monde sait qu'elle a eu 5 maris. Et Jésus a converti son cœur en lui montrant la vérité profonde, le mystère de l'adoration en esprit et en vérité. Je crois que ce lieu, pour nous, est capital. Toute la théologie de l'adoration. Alors je passe, si vous voulez, maintenant, puisque c'est une question qui a été posée, on terminera par là. Quelle différence entre l'adoration en éthique religieuse et l'adoration en éthique chrétienne? L'adoration en éthique religieuse, nous l'avons vu ce matin, sa grandeur, et combien c'est grand, et combien ça nous rectifie, et combien ça nous stabilise. C'est le Créateur dans sa sagesse, dans son amour, qui nous crée actuellement. En éthique chrétienne, Jésus nous le dit ici, il faut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est Jésus lui-même, Fils bien-aimé du Père, le Verbe devenu chair. C'est le Fils lui-même qui vient apprendre à son peuple et à tous les hommes qu'est-ce que c'est que l'adoration. Les hommes ne savaient plus. Et on le voyait par rapport au temple. Les hommes ne le savaient plus. Même le peuple d'Israël ne savait plus. Il y avait la confusion entre l'aspect du commerce et l'adoration. Et Jésus ne souffrait pas ça, ne pouvait pas souffrir cette confusion. Alors ici, il nous montre qu'il faut des adorateurs en esprit, en vérité. Seul Jésus, au plus intime de son cœur, adore en esprit, en vérité. Je crois. Il est l'adorateur par excellence du Père, dans son cœur d'homme et de Fils de Dieu. Adorer, pour nous, c'est adorer avec Jésus. C'est adorer en Jésus. C'est adorer par Jésus. Un chrétien ne peut plus adorer autrement. L'adoration par excellence, c'était le mystère de la croix. Et Jésus toujours adore le Père, éternellement. L'adoration de la croix. L'adoration rejoint le sacrifice. Non. Le sacrifice n'est plus extérieur à l'adoration. Le sacrifice est à l'intérieur de l'adoration. Et le sacrifice est la matière même de l'adoration. Tout prend une immanence unique dans l'amour et dans le mystère du Fils bien-aimé du Père. Ce n'est plus seulement le Créateur qu'on adore, mais celui qui est le Fils bien-aimé du Père et qui vient pour nous apprendre à adorer, qui vient pour nous racheter de notre orgueil, de notre vanité, de notre inclination mauvaise vers la jouissance charnelle. Il vient lui-même reprendre à la croix et reprendre en premier lieu l'adoration. Il veut des adorateurs en esprit, en vérité. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, que c'est l'adoration du Fils bien-aimé du Père qui est en même temps homme, qui nous montre combien cette nouvelle adoration est le fruit d'un amour. Et tout simplement comme l'incarnation de son amour. Tout le Christ dans son humanité est victime d'amour pour le Père. Dans un grand acte d'adoration. Toute la vie du Christ est une adoration pour le Père. À travers toute sa vie. Et c'est à la croix où cette adoration se manifeste pleinement. C'est son œuvre. Une adoration qui est un sacrifice d'amour où tout est offert. Le Père aime le Fils parce qu'il a déposé sa vie et qu'il l'a reprise. C'est bien le mystère de la croix. Et qu'il l'a fait librement par amour pour le Père. Dans un acte d'obéissance. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors je précise, au plan théologique, l'adoration du chrétien, c'est une adoration qui est toujours liée à celle du Christ. Et l'adoration du Christ, c'est l'adoration du Fils bien-aimé, c'est-à-dire qui s'offre lui-même, qui donne tout pour manifester au Père qu'il reconnaît qu'il est le Créateur, qu'il est le Rédempteur du monde, qu'il est le Sauveur du monde. C'est quelque chose de très grand, vous voyez ça. Ce n'est plus notre petite adoration, c'est l'adoration du Fils bien-aimé, qui offre ce qu'il y a de plus grand dans l'univers, ce qu'il y a de plus beau dans l'univers. en holocauste amour. Alors, quelle différence ? C'est que tout est commandé par la charité. L'agapé. Pour que, de fait, tout soit repris par la charité. Vous comprenez que si l'adoration est la vertu de religion qui vient immédiatement comme le fruit intérieur de cette adoration, c'est l'acte le plus profond que l'homme peut faire. L'acte le plus parfait, c'est la contemplation. Mais l'acte le plus radical, c'est l'adoration. Et si la charité vient tout transformer, c'est le levain de cette pâte humaine. Ce qu'il y a de plus noble dans cette pâte, c'est l'adoration. C'est donc l'adoration, l'acte d'adoration, qui va être le plus immédiatement transformé par la charité. Pour que cette adoration soit en esprit, en vérité, sous l'influence du don de sagesse, sous l'influence du don de crainte et du don de sagesse. Et tout alors est repris de l'intérieur. C'est une adoration d'amour, provenant de l'amour et conduisant à l'amour. C'est l'adoration du petit serviteur, petite créature, qui reconnaît dans son adoration que Dieu a tout pris et que Dieu a tout transformé par le don de la grâce. Il n'est plus une simple créature. Il reste une créature. Mais il n'est plus une simple créature. Il est l'enfant bien-aimé du Père, à qui le Père a confié tous ses secrets et a tout donné. Et ceci dans le Christ et en le Christ. Voyez que c'est la charité divine qui transforme l'exercice de la vertu de religion et qui transforme l'exercice de l'acte de charité sans changer ce qui spécifie cet acte, mais il en modifie l'accès, il en transforme l'exercice, puisque c'est à partir du cœur de Jésus que je comprends ce que je suis, petite créature, aimée, et divinement aimée, aimée comme créature, aimée comme rachetée, et que Jésus attend de moi ce double lien avec lui pour adorer pleinement. Je termine en vous remerciant de votre attention malgré la chaleur et que nous avons quand même passé, je crois, ensemble ces quelques jours de haute métaphysique, n'est-ce pas, à la vitesse d'un mirage, quelque chose d'extraordinaire, et en même temps en comprenant que tout ça est une extraordinaire simplicité, puisque c'est le lien le plus secret de notre cœur, de notre intelligence, avec notre Père, le Créateur, et Jésus à la croix. Et on comprend alors que l'adoration, c'est vraiment